Bezrat Hashem, on est en direct, on se retrouve. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de cours ici. On est avec les tireurs d'élite, Tania, Baruch Hashem. Alors le principe du cours, c'est toujours le même. Normalement, le cours, il n'est pas préparé. C'est un cours à sujet, le thème est libre. Donc c'est selon vos questions. Quelle est la question du jour?
Si on est obligé de suivre la Torah,
oui.
Où est en fait notre liberté?
Donc, si on est obligé de suivre la Torah, où est en fait notre liberté? Ok. Bezrat Hashem.
Notre libre arbitre.
Bon, notre liberté. C'est quoi la liberté en fait? Très bien, j'ai compris. Donc, en réalité, premièrement, il faut bien comprendre une chose. HaKadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire sa Torah. Après, il nous a laissé le choix. On peut la faire, on peut refuser de la faire. Après, il y a des conséquences. Donc, chacun par rapport à ses choix, il y aura des conséquences. Maintenant. Par rapport à ça, il faut bien arriver à comprendre. On voit que, après la paracha, on parle du don de la Torah, qui est la paracha Yitro. D'accord? La paracha qui suit, c'est la paracha Mishpatim. Dans la paracha Mishpatim, c'est quoi la première mitzvah dont on nous parle? Du Eved Ivri. D'accord? L'esclave hébreu, entre guillemets. C'est quoi en réalité? C'est une loi sociale. Une personne qui se surendette et qui ne peut pas payer ses dettes, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider en réalité? On lui trouve quelqu'un d'autre, pas ses créanciers. D'autres personnes qui vont l'employer, qui vont la salarier, qui vont l'accueillir chez eux, d'accord, pour le faire travailler, et lui permettre comme ça, et lui donner un salaire, ils doivent accepter de lui payer un certain montant, qui n'a pas de rapport direct avec le travail fourni, ils doivent accepter en fait d'essuyer sa dette, d'accord, et il devra travailler un certain nombre de temps, d'accord, il devra travailler chez l'employeur en question, on parle de gens qui ont des taux d'entêtement... Incroyable. Et on nous dit dans le Talmud, on nous enseigne qu'un homme qui accepte d'employer un serviteur hébreu, un Eved Ivri, il acquiert pour lui-même un maître. D'accord? Donc il achète pour lui-même, entre guillemets, il acquiert un maître. Pour quelle raison? Parce qu'on nous enseigne qu'à partir du moment où j'accepte de prendre quelqu'un qui est endetté, de la faire travailler, cette personne-là, et je dois l'héberger, si dans ma maison il n'y a qu'un seul coussin et qu'un seul lit, c'est le serviteur qui doit dormir dans le lit et avoir le coussin, pas moi. Si je n'ai qu'une seule portion pour un seul repas, je dois lui donner à manger à lui avant de me nourrir moi-même. En réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que cette notion-là, ça vient abolir la notion d'esclavage qui était très virulente déjà à l'époque du don de la Torah. C'était une ère barbare où l'esclavage, à l'époque, malheureusement, c'était monnaie courante. Jusqu'à aujourd'hui, il y a l'esclavage moderne, malheureusement. Donc on voit que c'est une chose dont l'humanité a du mal à se séparer. Mais par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que la notion d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'abolir toute notion d'esclavage. Je veux dire, vous avez quelqu'un qui est dans le besoin, qui n'a pas de quoi manger, qui est dans un pays qui a du mal à se développer, vous avez l'obligation de les aider. De les aider, et de les aider à rembourser leurs dettes, et à les aider, etc., etc., etc. C'est une loi sociale pour qu'il y ait un équilibre, entre guillemets. D'accord? Donc on voit que la Torah, lorsqu'elle a été donnée, il y a eu une volonté d'abolir toute notion d'esclavage. Premièrement, d'accord? Deuxièmement, on voit par rapport à ça, qu'est-ce que c'est le fait d'être véritablement libre? HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné sa Torah, ce n'est pas pour nous embêter. Il nous a donné une loi avec des codes sociaux, d'accord? Entre autres, d'accord? En réalité, on voit que, par exemple, le jour de la période de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, Yamim Noraim, les jours terribles durant lesquels on doit faire Teshuvah, on passe tous en jugement. On nous dit que si on a fauté vis-à-vis de notre Créateur, on n'a pas mis les tefillines, on n'a pas fait une bracha, on n'a pas fait birkat Amazon, on n'a pas fait cette fille-là, d'accord? On n'a pas forcément mangé kasher, etc. C'est entre nous et HaKadosh Baruch Hu. Il suffit qu'on se repentisse devant Dieu, qu'on lui demande pardon. Si on fait une véritable teshuvah, on est systématiquement pardonné. Alors que si j'ai fauté vis-à-vis de mon prochain, tant que je n'ai pas demandé pardon à mon prochain, au moins à trois reprises et devant témoin, d'accord? Eh bien, je ne serai pas pardonné dans le ciel tant que je ne vais pas voir mon prochain pour lui demander mechila. Donc, on voit que Ben Adam et Chavero, que les hommes entre nous, lorsqu'on faute les uns vis-à-vis des autres, c'est beaucoup plus grave aux yeux de Dieu que lorsqu'on faute vis-à-vis de notre Créateur. Vous comprenez ou pas? Maintenant, pour éviter que l'on faute les uns vis-à-vis des autres, HaKadosh Baruch Hu nous a donné des lois, une Torah à respecter. Et en disant, en respectant ma Torah, vous allez créer un équilibre, une paix mondiale, une paix sociale entre les hommes qui soit juste pour tous. C'est ça en réalité la Torah. Raison pour laquelle, Baruch HaShem, le judaïsme est la première religion monothéiste, et c'est raison pour laquelle elle a inspiré autant de personnes à créer d'autres religions monothéistes. Vous comprenez ce qu'on est en train de vous dire ? Par rapport à ça, justement, on voit quoi ? On voit que dans... On voit justement, par rapport à cela, que le plus important, c'est de se dire que dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, s'il a donné sa Torah, c'est pour que tu sois libre, justement. Libre de quoi ? Pour bien comprendre, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire-là, le cours, il va être très court. Bezrat Hashem. Il y avait, justement, à Tzantz, à Atania, un Talmid Racham, qui faisait énormément de Zikouya Rabim, un chassid de Tzantz, d'accord ? Qui s'occupait de beaucoup de jeunes, qui les ramenait à la Teshuvah, qui s'occupait d'eux, qui les sortait de la drogue, etc., etc., et d'autres problèmes. Et, justement, lui, malheureusement, il avait, dans sa maison, il avait une épouse qui était, entre guillemets, fatiguée nerveusement. Fatiguée nerveusement. Et il s'est toujours très bien occupé de son épouse. Mais il avait une chose, il ne faisait jamais venir personne chez lui. Pourquoi ? Parce que sa femme, qui était fatiguée, pouvait parfois mettre mal à l'aise les gens en ayant des réactions un peu incongrues, un peu étonnantes, d'accord ? Devant les gens, faire des remarques, s'énerver, se mettre en colère. Donc pour ne pas mettre mal à l'aise ses invités, il avait pris sur lui d'inviter personne à la maison. Sa femme, voyant les efforts que faisait son mari, Baruch HaShem, par rapport à elle, etc., et allant de mieux en mieux, Baruch HaShem, a demandé à son mari une année pour Pessah. Elle a dit, mon mari, je sais que ça fait des années que tu en rêves, j'aimerais pour Pessah que tu invites quelques-uns de tes élèves, que tu fasses un seder à la maison de Pessah avec tes élèves. Alors le mari lui dit, j'ai aucun problème. Et la femme, justement, Baruch HaShem, elle allait beaucoup mieux. Et elle était suivie par un psychologue. Et elle disait, justement, il y a une autre dame qui se fait suivre par le même psychologue, on se retrouve, il y avait des séances de groupe où elle se retrouvait là-bas, les dames. Elle dit, il y a une dame qui est dans le besoin, elle suit les séances avec nous, juste pour pouvoir préparer le seder, j'aimerais employer cette dame qu'elle nous aide à la maison pour faire un peu le ménage, pour m'aider dans le nettoyage, pour m'aider à préparer le seder de Pessah. Le chassid en question, il dit, il n'y a aucun problème. C'est une histoire vraie, tout ce que je suis en train de vous raconter. Aucun problème. On emploie la dame, on va en faire une misva, on va l'aider, etc. Il se trouve que la dame qu'ils ont employée a été encore plus fatiguée que sa femme, nerveusement. Et ce qui s'est passé, c'est que la dame en question, quand elle est venue à la maison, durant la veille de Pessah, elle est venue pour faire les dernières préparations, mettre la table, etc. L'autre épouse, elle avait des enfants qui étaient grands, etc. Elle est partie chez voir ses enfants, ses filles, ses fils, pour les aider, pour voir ce dont ils avaient besoin, pas besoin. Ils devaient tous venir pour le seder, pour aider dans les dernières préparations de Pessah, etc. Laissant cette femme à la maison préparer les dernières préparations de Pessah. Et lorsqu'elle est rentrée, et durant ce moment-là, il en restait quelques enfants, des petits à la maison, qui avaient très très faim. On éveille du seder de Pessah. Les enfants ont très très faim. Et la dame en question, elle réfléchit pas. Elle se dit, vous savez quoi ? Le chassid en question, c'est une mitzvah de préparer nous-mêmes nos matzot. D'accord ? Avant Pessah, beaucoup de gens louent les services d'une maafia, d'accord ? D'un endroit où on prépare les matzot, où là-bas il y a des mashgichim, il y a des surveillants qui viennent et qui aident les gens à préparer leurs propres matzot. Donc il était parti avec un groupe d'élèves préparer ses propres matzot à la main. Il a fait des belles matzot, etc. Spécialement, matzot shmurot, d'accord, qui ont été surveillés depuis le moment de la récolte, d'accord. Donc du blé, donc il est parti, il a pris ces belles matzot-là, 1,5 kg de matzot, il a mis comme ça, au-dessus, ou je crois, plus que ça, peut-être 3 ou 4 kilos de matzot, il a mis au-dessus de l'armoire. Et elle voit comme ça durant la journée, la dame qui devait aider à la maison, elle voit les enfants, les petits, on a faim, d'accord ? Veille de Pessah, ils ont nettoyé, ils ont enlevé tout le khametz de la maison, il n'y a pas de pain, il n'y a rien. Elle se dit quoi la dame ? Elle dit, viens, on prend les matzot, on va manger les matzot des enfants, ils ne vont pas prendre la tête, au moins je vais pouvoir faire le ménage. Et s'ils font des miettes, les miettes, elles ne sont pas khametz vu que c'est des matzot, donc il n'y a pas de problème, je leur donne. Elle a pris les matzot, elle a distribué aux gosses. Les gosses étaient seuls, il y avait les gosses des voisins qui sont venus jouer avec eux. Donc quand les gosses des voisins sont venus, elle a donné des matzot aux enfants des voisins. Bref, les 3 ou 4 kilos de matzot, ils sont partis, enfumés, engloutis par les enfants. Veille de Pessah. Oui. Vous savez, c'est quoi? Maintenant, la maîtresse de maison, quand elle rentre à la maison, elle n'a pas vu que les matzot ont été distribués aux gosses. Elle n'a pas vu. Elle était fatiguée. Elle est partie se reposer. En demandant à la dame, avant de partir, qu'elle mette la table. D'accord? Le mari, durant cette journée-là, il avait aidé son épouse, mais après, il était parti donner des cours. Et directement après ses cours, il devait prier à la synagogue et rentrer à la maison. Donc, il donne ses cours, il prie à la synagogue, il rentre à la maison, et quand il rentre à la maison, la table n'est pas mise, la nappe n'est pas mise, rien n'est prêt, et il se rend compte qu'il n'y a plus de matzot. Et comme les enfants avaient soif, ils ne savaient pas quoi boire, elle leur a ouvert les bouteilles de jus de raisin. Il a 2 litres de jus de raisin et 20 personnes à la maison. Catastrophe. L'autre, elle a fait distribution de jus de raisin et de matzot. Oui ou non? Sa femme, elle se réveille, dit, oh, mon chéri, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, les matzot, elles ne sont plus là, le jus de raisin, il n'est plus là, j'arrive pas à comprendre, et les petits, ils disent, non, la dame, quand elle est venue pour aider, on avait faim, elle nous a donné les matzot, comme elle a eu soif, elle nous a donné le jus de raisin, elle a mélangé le jus de raisin avec de l'eau, et même les 2 bouteilles qui restent, en fait, elle a vidé les bouteilles, comme elles étaient à moitié vides, elle a rempli avec de l'eau. Donc même le jus de raisin qui reste, il ne peut même pas l'utiliser comme kidouche, comme jus de raisin. Donc il lui reste quelques bouteilles de vin pour les hommes, mais plus de jus de raisin pour les enfants et les femmes, plus de jus de raisin, et plus de matzot. C'est le scénario catastrophe ou pas? On a bien expliqué. Scénario catastrophe. Scénario catastrophe. Maintenant, le rav y rentre, il y a ses enfants qui viennent avec les petits-enfants, tout le monde compte sur le seder, plus rien à la maison, pour faire le seder, il faut les matzot. Il faut le vin, il faut le jus de raisin, oui. Et en plus de ça, écoutez, et en plus de ça, la table n'est pas mise, rien n'est prêt, c'est une catastrophe. Et les élèves disent, Vodarav, on est vraiment désolé, on peut aller ailleurs, on ne veut pas vous mettre mal à l'aise, vous avez peur que le rav il se fâche avec sa femme, qui n'a pas fait attention, etc., etc. Et là, le rav il leur répond, je vais vous expliquer c'est quoi la notion de Bnei Chorin. Le soir du Seder de Pessah, on dit bien qu'on est les enfants de la liberté. Oui, Bnei Chorin. On est enfin libres. Dieu nous a libérés d'Égypte, il nous a donné sa Torah. Et à travers ça, il nous a libérés du joug de ce monde. Quand on s'attache à la Torah, on se détache du joug matériel, intellectuel de ce monde qui peut nous faire perdre toute notion de moralité, d'accord, et toute notion humaine importante aux yeux de Dieu. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? On voit bien, les idéaux politiques, parfois, ça peut mener à des catastrophes. Donc, qu'est-ce qu'on voit, justement? On voit par rapport à ça, justement, que le mari, maintenant, il dit à ses élèves, il dit, maintenant, je vais vous apprendre, c'est quoi être Bnei Chorin? Bnei Chorin, ça veut dire quoi? Quelle que soit la situation, quoi qu'il arrive, garder le contrôle de ta propre personne. Ne pas te mettre en colère. On dit que la colère, dans ce monde, Dieu a donné 2 armes au Yetzer Hara. D'accord, au mauvais penchant, pour que les hommes s'autodétruisent et se détruisent entre eux. La colère et la hatzvout, la mélancolie. Quelqu'un qui est triste, à force d'être triste, il va être en colère. À force de se mettre en colère, il va être triste. À force d'être triste, il se met en colère. À la fin, la personne devient négative. Et elle décide de voir les choses sous un angle négatif. C'est un choix malheureux que la personne est en train de faire malgré elle-même. Elle a l'impression qu'elle ne fait pas de choix. Mais c'est un choix d'être heureux ou malheureux. C'est moi qui décide de voir la situation comme je la vois. Quand on dit qu'un homme, lorsqu'il épouse une femme, sa femme, c'est Ezer Kenegdo. Nos maîtres nous rapportent. C'est quoi Ezer Kenegdo? Alors, il y a l'enseignement de la Gemara qui nous dit c'est soit elle nous soutient pour que l'homme, pour qu'il arrive à s'améliorer, soit elle s'oppose à l'homme pour l'obliger à s'améliorer. Mais ça peut être aussi une femme qui peut soutenir son mari pour s'éloigner de la Torah. D'accord? Ou qui peut s'opposer à son mari pour l'éloigner de la Torah. Donc on parle de différents comportements, c'est toi comment tu as envie de voir les choses. Une femme quand elle dit à son mari, mon mari, va faire des travaux, va travailler, fais du malhonnête. Moi je veux les vacances à Eilat, je veux la belle voiture, je veux la belle montre, je veux les vacances, je veux le kiff. Je m'en fiche. Bon, tu veux faire Shabbat, kasher, etc. On fait tout comme il faut. Mais va travailler dans des boulots où tu voles les gens. Va! Parce que je veux l'argent, je veux le kiff. Et attention si tu ne ramènes pas. Hein. Attention si tu ne ramènes pas l'argent. Oh, c'est quoi comme épouse, ça? Elle pense qu'elle fait Shabbat, qu'elle mange kasher à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait, cette épouse-là? Oh. Par rapport à cela, qu'est-ce qu'on voit justement? On voit justement, c'est pas bien ce qu'elle est en train de faire. On peut arriver à comprendre que des gens aient besoin d'un confort matériel, mais d'arriver à de telles choses, c'est pas bien. Mais attends, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, justement? Il se passe tout simplement que cet homme-là, il est en train de leur dire de garder le contrôle. Ce chassid, il leur dit de garder le contrôle de soi-même, quelle que soit la situation. D'arriver à ne pas te mettre en colère et ne pas t'attrister. Il dit, regarde ma femme aujourd'hui, Baruch HaShem, elle va beaucoup mieux. Son épouse à lui. Pourquoi? Parce que à travers toutes les crises et les problèmes qu'elle a eus, j'étais toujours là pour la soutenir. Aujourd'hui, elle va mieux. On a demandé à une autre personne de venir, on a voulu aider. Malheureusement, ça s'est mal passé. C'est même pas la faute de l'autre dame. On aurait dû faire attention, on aurait dû lui expliquer. Mais c'est pas grave, c'est arrivé. Sachez bien une chose extraordinaire. Il leur dit, c'est quoi être libre? C'est de rester avec le sourire. Il est resté calme, il est resté souriant. Il a dit à sa femme, chérie, il ne te reste pas de la matzah, même à Shira. Tout, n'importe quoi. T'as pas un petit bout de matzah? Non, rien. C'est pas grave. Ils sont partis voir les voisins, ils ont fait le tour. Chaque voisin, il a donné 2-3 matzot, une petite bouteille de jus de raisin. En 5-10 minutes, le problème était réglé. Il est resté calme et souriant, ils ont passé un super seder. Et les élèves étaient étonnés. Ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines plus tard, les élèves en question qui étaient là-bas, ils croisent un jour la femme, la dame qui était là-bas, qui avait aidé le monsieur qui était connu dans la communauté d'Auxence. Et eux, ils avaient assisté, ils en ont parlé à personne, parce que le rav, il leur a dit surtout, vous ne parlez à personne de ce qui s'est passé. Ils ont vu cette dame. Et il y avait un des élèves qui était marié, son épouse connaissait la dame en question. Donc la dame qu'ils ont employée en tant qu'employée de maison pour les aider à tout préparer à la maison. Celle qui a distribué les matzot, jus de raisin, etc. Et la femme d'un des élèves, tout simplement, lorsqu'elle la croise avec les autres élèves, elle va la voir et lui dit, c'est, on a été au CDR chez tel rave, etc. Et on a appris que c'est toi qui les as aidés pour le ménage. Qu'est-ce que tu leur as fait comme balagade le soir du CDR? Elle dit, de quoi tu parles? Quoi, de quoi je parle? Mais non, je ne suis pas au courant, quelle balagade? Moi, on ne m'a rien dit. Et là, elle a compris que non seulement, ils ont compris les élèves, que non seulement le rave, il est resté calme, il est resté souriant, mais il n'a même pas fait le reproche à cette dame qu'il a continué à employer. Baruch HaShem, les années ont passé. Aujourd'hui, la femme de ce Rav, elle va beaucoup mieux. Ça arrive des fois, il y a des femmes, elles ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, famille nombreuse, beaucoup de soucis. Ça peut arriver parfois pour certaines personnes de ne pas se sentir bien. Le mari, comme il a su être compréhensif, souriant, attentionné et rester calme, sa femme a guéri. Non seulement ça, mais cette dame-là, il a aussi aidé à guérir. C'est quoi la véritable liberté? Tu es libre d'être heureux dans ce monde, comme le dit le Rav Nachman de Breslev. Oh, aujourd'hui, c'est le premier jour de ta vie. Parce que ta vie, à partir d'aujourd'hui, elle va être chargée. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas décider de dire que Hakol est Tova, que tout est pour le bien. Et que même dans ce qui t'arrive, Akadosh Baruch Hu, il te met à l'épreuve. Il est rapporté dans la paracha Ré, Perek Yud Gimel, que parmi les Bnei Israël, peut se lever un homme qui soit un prophète mensonger. D'accord? Un faux prophète. Nos maîtres posent la question. On voit qu'à l'époque de Yirmiyahu, il y a eu un prophète, d'accord, qui s'appelait Hananiah ben Zachur. Et ce prophète-là, c'était un véritable prophète. Mais quand Dieu, il lui a fait dévoiler ce qu'il devait dévoiler à ce monde, il a arrêté de se dévoiler à lui. Le prophète l'a mal pris. Donc il allait dans les cours de Yirmiyahu à Navi, le prophète Jérémie, pour entendre les prophéties de Jérémie, et après il allait dire aux gens que c'était ses propres prophéties. Et après, au fur et à mesure, il a commencé à en rajouter un petit peu. Jusqu'à que la finale, il a fait que malheureusement, beaucoup de Juifs ont fauté à cause de lui. La Gemara nous rapporte que sachez qu'il y a eu un avis, un prophète qui était un véritable prophète, ce prophète-là, et qui est devenu par la suite un prophète mensonger. Comment est-il possible qu'un prophète, un homme qui soit arrivé à un tel niveau de sainteté que Dieu se dévoile à lui, soit tenté par son Yetzarara? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. On dit, quelle est la différence entre le tzaddik et le rachat, entre le juste et le mécréant? Ruta Sahara, le fil du rasoir. Selon les choix que tu fais, la façon dont tu décides de parler, de te comporter, la différence, elle peut être vraiment très fine. C'est pour la raison pour laquelle on te dit que n'importe quelle personne doit toujours se considérer comme une personne mécréante. Pour toujours être dans une dynamique de se remettre en question, de faire attention. Pour quelle raison ? Pas pour te dire, pas pour te commencer à dire « je ne suis pas, bien, mais au contraire, je suis quelqu'un de bien. » Mais je dois faire attention à ce que je dis, je dois faire attention à ce que je fais en permanence. La Midat HaEmet, j'en ai déjà parlé ce matin, c'est tout simplement d'arriver à être vrai déjà vis-à-vis de nous-mêmes, de savoir où est-ce qu'on en est, avant de parler des autres, bien, comment je suis moi, comment je me comporte. Bon, de se remettre chacun en question, tous, sans aucune exception. Et justement, on voit justement que la véritable notion de liberté que Dieu te donne, il te dit, voilà, moi, à travers ma Torah, si tu l'écoutes, si tu l'accomplis, je peux te garantir les portes du monde futur, mais aussi les portes d'une vie heureuse ici-bas. Malgré les épreuves, il est rapporté dans la Gemara, Masechet Taanit, et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que c'est quoi la véritable crainte du ciel ? D'accord ? On dit la véritable crainte du ciel, c'est d'accepter le fait que Dieu ait créé ce monde avec des lois de la nature, des règles à respecter, et que si moi, je me soumets aux lois de la nature et aux règles que Dieu a créées, alors quand il fait froid, je me couvre. Quand il fait soleil, je mets une casquette pour ne pas attraper un coup de soleil, je me couvre, je mets la crème solaire, j'accepte les lois de la nature. Oui ou non ? Quand moi j'accepte les lois de la nature, tout simplement, et que je me préserve, par rapport à cela, je fais preuve d'une véritable crainte du ciel. Vous comprenez ou pas ? Et quand moi, je me bats contre ce que certains pourraient appeler une loi de la nature, ce n'est pas vrai, mes besoins physiques et matériels, mes besoins minimaux, mes besoins bestiaux, quand je me bats contre ça, pour m'améliorer et m'élever au rang d'être humain, de descendant de Adam et Ève, au rang d'être humain, Adam, descendant de Adam et Ève, en étant au-dessus de cet instinct animal. Tout simplement, Baruch HaShem, je m'ouvre les portes d'un véritable bonheur. Non ? Oh. Je pose une question simple. Il y a des gens qui aiment bien manger. Ils aiment bien manger le sucré, ils aiment bien manger. Ils mangent non-stop toute la journée. Il y a des kilos en plus. Oui ? Pour perdre les kilos, il faut bien vous mettre au régime. Quand vous vous mettez au régime et que vous perdez quelques kilos, la majeure partie d'entre vous, vous êtes heureux ou pas ? Je ne vous entends pas.
Oui.
Heureux ou pas ? Oui. Baruch HaShem. Et pourtant, vous vous êtes privé de certaines choses pour votre bien. Akadosh Baruch Hu, il fait exactement la même chose. Il y a des choses qui nous autorisent et d'autres choses qui nous interdit dans ce monde qu'il a créé pour notre propre bien, pour qu'on ait cette satisfaction que lorsqu'on a fourni un effort d'être satisfait de nous-mêmes parce qu'on a tenu la route et qu'on a réussi, Baruch HaShem, en tenant un certain régime, Baruch HaShem, à nous améliorer et à nous faire du bien à nous-mêmes. Donc la véritable liberté dans ce monde, c'est tout simplement lorsque tu viens que tu acceptes les règles de ce monde et que tu t'y soumets et que tu accomplis la Torah en respectant les règles de ce monde, Baruch HaShem, tel que Dieu te explique comment fonctionnent ces règles, et en t'y soumettant, Baruch HaShem, c'est ce qui te donnera la véritable notion de liberté. C'est quoi la véritable notion de liberté ? De quelle que soit la situation qui va t'astreindre, qui va te faire te sentir pas bien, d'arriver à avoir le contrôle de tes sentiments, d'arriver à rester positif quoi qu'il arrive. C'est une véritable liberté et c'est à travers ça qu'on arrive au véritable bonheur. Bezrat Hashem, j'espère que tout le monde arrivera à faire le lien entre tout ce qui a été dit avec l'aide de Dieu, qu'on ait chacun la bracha, la yatzlacha, qu'on ait Bezrat Hashem la notion d'être de véritable Nechorin, d'accord ? Bezrat Hashem et Chorin, il ne faut pas oublier que la racine de Chorin, d'accord ? C'est le Chet et le Resh, d'accord ? Et on voit que la racine aussi de Charita, d'accord ? De graver dans la pierre. On dit que les tables de la loi ont été gravées, d'accord ? Dans le saphir. Elles étaient en saphir. Elles ont été gravées à l'intérieur. Les commandements, les 10 commandements ont été gravés à l'intérieur. Une première fois par Akadosh Baruch Hu et une deuxième fois par Moshe Rabbeinu. Gravées. Qu'est-ce qu'on te dit tout simplement ? On te dit justement que la véritable notion de liberté, c'est quand tu arrives à graver dans ton âme les véritables lois de la Torah d'Akadosh Baruch Hu pour accéder au bonheur. Chacun par rapport à son niveau. Parce que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. De la même façon que les parents, ils vont dire à leurs enfants, ne mange pas trop de bonbons, tu vas avoir des caries. Si tu as trop de caries, après c'est le dentiste, c'est les appareils, c'est les couronnes, c'est les traitements, c'est la fameuse fraise du dentiste, etc. etc. D'accord ? Pas la fraise à manger, hein, c'est la roulette. Entre guillemets, qu'est-ce qu'on voit justement ? On voit justement qu'on veut préserver nos enfants. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, il veut nous préserver. Et nous, êtres humains, on n'arrive même pas à se mettre d'accord. Les guerres continuent, les holocaustes, comme on a connu durant la période de la Shoah, continuent, et tout, d'autres peuples, d'autres ethnies, les chrétiens aujourd'hui, à travers le monde, en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, le Darfour, il n'y a rien qui s'arrête. Le malheur à travers le monde. Les hommes ne veulent toujours pas comprendre les lois de Dieu, les lois de la Torah. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Il faut bien comprendre que si le monde va mal, ce n'est pas la faute à Dieu. Dieu, ce n'est pas le persécuteur désigné. C'est que nous, les hommes, on a décidé de faire de ce monde ce qu'il est. Oh, quand des gens décident de descendre dans les rues de Paris et de casser gratuitement des commerces à cause des résultats d'une élection, simplement, d'accord, c'est eux qui ont fait ce choix. Et ils ont gâché la vie à beaucoup de gens en faisant ça. Ils ont fait peur aux passants, ils ont causé des dommages, et ils créent une ambiance, c'est un choix. C'est les hommes qui transforment ce monde tel qu'il est, c'est pas Dieu. Dieu, justement, il nous a donné un libre arbitre, il nous a donné le choix de faire de ce monde un monde excellent, un monde extraordinaire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de ce monde? Oh. Et pourquoi? Par orgueil, par cupidité, par besoin de quoi? Et c'est ça le véritable problème. Et c'est par rapport à cela, Bezrat Hashem, qu'on doit tous arriver à nous remettre en question, qu'on ait la bracha, la tzlacha. Et comme nous rapporte nos maîtres de mémoire bénis, le Ham Israël, on doit être un phare pour les nations. Il ne faut pas oublier que le véritable Mashiach sera le Mashiach d'Israël, Mashiach ben David, et qui sera le Mashiach non seulement pour le clan d'Israël, mais pour l'ensemble de l'humanité. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de voir le véritable Mashiach, le vrai de vrai, d'accord, avec l'aide de Dieu très vite parmi nous, et ni sur Internet, ni sur Facebook, ni ailleurs, mais en chair et en os, Bezrat Hashem à Yerushalayim, avec la reconstruction du troisième temple. Amen, Kenny Ratson, Kol Tov à tous. Amen.